Bonjour Alexandre.
Salut Frédéric.
Alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho.
Ça va très bien.
Bon, donc ce troisième épisode de notre podcast hebdomadaire sur le tech clash, le backlash contre le big tech, commence avec un point de vue historique qui est assez intéressant. C'est un des trois liens qu'on vous propose et qui revient en fait sur l'histoire du capitalisme américain qui s'est construit avec des monopoles souvent privés, avalisés par le pouvoir politique, et au bout d'un moment, ces monopoles devenaient un peu trop imposants. Le pouvoir politique s'organisait pour les réguler. Un des premiers exemples a été le chemin de fer. On l'oublie, et c'est un petit peu la même chose pour le Canada. Ce sont des pays qui ont été vraiment construits par le chemin de fer transcontinental qui faisait finalement connecter les deux côtes, l'Atlantique et le Pacifique. Et là, on est une centaine d'années après, enfin 150 ans plus tard, avec le Big Tech, les grandes plateformes qui connectent le monde. Et on est au devant, possiblement, comme on le dit depuis plusieurs semaines, de cette nouvelle régulation. Ton point de vue ?
Alors, je trouve que c'est un papier vraiment remarquable parce que, comme il est construit sur une industrie qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est devenue souvent des services publics ou parfois... même parfois une industrie un peu obsolète, c'est extrêmement important de se remettre dans les conditions de l'époque et de voir l'impact qu'a eu le chemin de fer dans l'unification économique et même de sociétés d'un continent entier qui a été l'Amérique du Nord. On ne peut pas penser l'industrie et l'Amérique sans penser au train jusqu'à l'avènement de la voiture et de l'avion. C'est le moyen qui a permis de construire l'Amérique. Et l'analogie est d'autant plus forte que quand on se retrouve avec l'impact des nouvelles technologies au niveau mondial, on voit exactement le même genre de phénomène, donc la création de situations de monopole qui deviennent abusifs parce qu'il y a des ententes et parce qu'il y a un trop grand impact sur l'économie et sur la société de ces organisations qui deviennent non seulement tentaculaires, mais dangereuses pour l'ensemble du système. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans le papier, c'est qu'en fait, c'est les populistes, et on voit bien où ça nous mène, qui, à l'époque, hurlent le plus contre ces systèmes. Et effectivement, l'analogie, si on la poursuit, on peut imaginer qu'effectivement, les populistes obtiendront gain de cause, une fois de plus, avec cette nuance que les populistes seront cette fois-ci sans doute arrivés au pouvoir grâce aux réseaux sociaux en particulier.
Alors, c'est intéressant, on y reviendra certainement parce que on a trop tendance aujourd'hui à regarder le mot populisme avec, on va dire, les yeux du XXe siècle, et populisme égale fascisme totalitaire, mais il y a toute une autre tradition, notamment américaine, d'un des plus grands présidents qui a été Theodore Roosevelt, qui a été le Trust Buster, mais on y reviendra. Je te laisse nous présenter le deuxième lien de cette semaine.
Alors justement, dans l'illustration de la prise de conscience de ce qui se passe avec les GAFA ou... De manière générale, les entreprises qui abusent ou ont un potentiel pour abuser, il y a une illustration que j'ai trouvée vraiment très, très impressionnante, faite en plus par le Wall Street Journal, ce qui est encore plus fou, dans les pages de tech personnel, qui explique comment la puissance de Facebook, c'est pas de pouvoir nous écouter dans notre conversation quand on parle dans notre micro, mais c'est de pouvoir connecter les dots, connecter toutes les datas et tous les liens qui existent autour de nos achats et notamment autour de la localisation. L'article se termine par en fait, ils n'ont pas besoin de vous écouter parce qu'ils savent déjà tellement de choses de vous que ce serait complètement idiot et inutile finalement de vous écouter. Je pense que c'est par ce genre de prise de conscience que les consommateurs vont se rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est sans doute aussi très intéressant de voir qu'un média de la puissance du Wall Street Journal, qui est évidemment très lu à Wall Street, mais pas que, va donner à ce qui se passe. Parce que finalement, il y a peu de personnes, à part les investisseurs et les consommateurs, qui sont en mesure finalement d'impacter les politiques et de leur dire « mais ça suffit, c'est trop dangereux ». Et ça m'a frappé, puisqu'au moment où j'allais dans mon kiosque à journaux, parce qu'il en reste un dans mon quartier à Paris, j'ai vu cette affiche du journal « Oui, demain », qui est un peu un journal de prospective, qui disait « il faut démanteler les empires des GAFA ». Parce que, d'ailleurs, je t'ai envoyé la photo, j'espère que tu pourras la publier. Les empires sont dangereux pour notre vie quotidienne, la démocratie et l'économie. Donc, c'est pour moi l'illustration presque la plus criante, et le papier en plus du Wall Street Journal est très très bien fait. Il explique concrètement comment enlever les aspects de localisation dans tout ce qu'on fait, comment ne pas se mettre dans les systèmes où soi-disant on vous donne des avantages si vous dites où vous êtes, parce que c'est précisément à partir du moment où on identifie où vous êtes dans votre magasin préféré, vous faites une acquisition, et cette donnée sera échangée et achetée par Facebook, qui lui permettra ensuite de qualifier votre profil et donc de gagner encore plus d'argent sur une information gratuite que vous lui avez donnée et sur une information qu'il a achetée à ceux qui vendent de l'information dans les points de vente et ailleurs. On voit bien à ce moment-là que c'est un danger massif. Ce n'est même plus la NSA, c'est une donnée de la création de valeur des entreprises qui valent le plus aujourd'hui au monde, que sont les GAFA.
Alors, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est effectivement ce côté tentaculaire de la collecte d'informations. Et on peut se demander si tout n'était pas écrit quand Facebook Connect est devenu un des moyens de s'identifier un petit peu partout sur le web. On est tous un petit peu paresseux, recréer des passwords, etc., ça nous embête. Quand Facebook et Twitter, d'ailleurs, ont proposé de le faire, tout le monde a sauté là-dessus sans finalement se poser la question de ce qu'il allait faire sur cette connexion des points, comme tu dis. Mais moi, je vais faire une autre incise, c'est qu'on peut se dire que à la lumière d'un film qui a beaucoup marqué les esprits, qui est sorti en 2001-2002, Minority Report, certains y ont vu une dystopie négative et d'autres ont vu finalement la voie à suivre. Et c'est ça qui est assez frappant.
Je crois que l'intelligence de beaucoup de gens de la Silicon Valley a souvent été nourrie dans leur enfance par la science-fiction. Donc Minority Report, c'est un film adapté d'un livre de Philip K. Dick. Il y a derrière cette conception une compréhension assez fine finalement de l'informatique et assez fine du potentiel et de la puissance de l'informatique appliquée au traitement de l'information personnelle, puisque dans le film, on peut prédire les comportements. C'est ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Il faut aussi reconnaître à Zuckerberg une extrême intelligence pratique, c'est-à-dire de comprendre la puissance de ce qui est en train de se passer et de proposer l'outil de manière psychologique, qui va permettre aux gens de se simplifier la vie. Parce qu'on fait tous le même geste, on utilise Facebook Connect. Parce que c'est pratique et que c'est extrêmement efficace. Et on crée de la valeur. Donc c'est win-win en fait. Sauf que celui qui gagne le plus, disons que c'est win à 5% pour le consommateur et à 95% pour Mark Zuckerberg. Et c'est là où on voit que c'est une entreprise remarquable, mais à un point qui peut provoquer un danger pour les autres entreprises et même pour l'équilibre global du système. C'est au fond la même analyse qu'on pourrait faire d'Amazon, qui est une entreprise absolument remarquable et extrêmement tentaculaire, et qui est en fait aussi porteuse de ce genre d'abus. Je suis un consommateur d'Amazon et je suis extraordinairement impressionné par la puissance des outils qu'ils déploient, et je suis très impressionné par exemple par leur déploiement en vidéo. Et je vois bien, et on voit bien tous, que derrière, on commence à être addict et ne plus avoir de recul face à l'usage. C'est là où ils sont très très forts finalement, c'est de mixer, d'aligner parfaitement l'usage, le besoin du consommateur, le user intent, et l'expression à travers des très bons logiciels et des très bonnes expériences, qui débouchent sur une position dominante. Qui peut, et je pense que c'est aussi un bon lien, en tout cas un bon rebond par rapport au troisième lien qu'on propose cette semaine, qui demain pourra peut-être proposer une révolte des consommateurs contre ces expériences.
Alors oui, le Guardian, qui est souvent maintenant un des rares endroits où il y a un véritable débat sur toutes ces questions. On peut déplorer qu'il y a trop peu de forums aussi impactants que le Guardian, mais ça c'est un autre sujet, nous livre un article très intéressant sur, là aussi, une perspective historique par rapport à ce qu'on appelle en anglais les néo-luddites, et en français, on peut parler de l'étymologie du mot saboteur. Saboteur, faire, c'était de mettre son sabot physique, son sabot, sa chaussure, dans les machines qui tendaient à remplacer les ouvriers manuels au 18e, 19e siècle. Est-ce qu'on est en train de revivre ce même backlash? Bah, oui, chaque accélération du progrès contient en elle finalement un certain degré de résistance des forces d'inertie. La grande question, c'est est-ce que le progrès ultime va se faire de manière la plus distribuée possible pour le bien de tous. Et là, sur tout ce qu'on voit depuis plusieurs semaines ensemble, cette collecte des données, l'exploitation de ces mêmes données, etc., on est, si tu me permets l'expression, dans un rapport que certains ont qualifié de néo-féodalisme. Et ça, je pense que c'est assez impactant comme terminologie, mais il faut qu'on ait un peu ce mot à l'esprit pour essayer de retourner la question.
Oui, en fait, c'est la même chose qui s'est produite pendant la révolte des Canuts, pareil, exemple historique, où les ouvriers ont cassé les machines. C'est, à mon avis, quand même extrêmement difficile, parce qu'il faudrait être capable de comprendre comment fonctionnent les systèmes et ensuite de les détruire. Donc, il faut imaginer un monde où les hackers, finalement, deviennent des révolutionnaires ou des terroristes et retournent contre les programmes informatiques, des programmes de destruction, ce qui posera de toute façon à l'ensemble de la société des vrais problèmes, parce que il faut détruire une partie ou contrôler une partie ou réguler une partie sans perdre l'avantage considérable que ces outils ont amené. Donc je suis très intéressé par cette analyse, disant qu'on va avoir une nouvelle phase de destruction. La question des conditions de la destruction, la question des conditions de la régulation va être vraiment très 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 sensible, parce que autant il était facile relativement de mettre un sabot dans une machine d'un fil à tisser, autant casser Facebook ou casser Twitter ou casser Amazon, c'est revenir à des systèmes très anciens, souvent très coûteux. C'est la force principale, par exemple, d'Amazon par rapport au commerce traditionnel. Et il n'est pas du tout évident que ça se passe très simplement, ou même qu'il n'y ait pas aussi des coûts associés avec ces destructions. Donc on est effectivement peut-être devant quelque chose qui va provoquer de nouveaux bouleversements, ou alors des changements de loi et des obligations nouvelles pour ceux qui font ces services.
Et bien sur ces bons mots, on va souhaiter une excellente semaine à nos auditeurs. Je précise qu'on est maintenant distribué par iTunes, donc vous pouvez vous abonner directement sur le lien qu'on va proposer un petit peu partout sur le partage de ce podcast. Et je te dis à la semaine prochaine.
Salut Frédéric.
Au revoir.